pour commencer notre moment d'étude de la parole de Dieu, nous raconter le témoignage d'un de nos aînés qui nous a précédés auprès du Père, avec qui un jour on va se retrouver pour chanter les paroles de ce chant. Et cet aîné, son prénom c'est Marc. Il se prénomme Marc. Son petit nom c'est Jean. Donc pour d'autres on dit Jean-Marc. Et ce matin, j'aimerais partager une portion de son témoignage. Et son témoignage va nous conduire, je veux dire, durant ces quelques semaines, durant ces quelques mois dans notre église, en tant que famille. Nous allons essayer de parcourir le témoignage de notre aîné Marc. Qui est Marc? Qui est-il, cet aîné? Pourquoi est-ce que on peut dire que c'est notre aîné? Quel lien entre Marc et le roi dont on vient de parler tout à l'heure, qu'on vient de psalmodier par ses paroles? Marc, je ne vais pas vous laisser languir davantage. Marc ou Jean-Marc, on le voit dans les évangiles, on le voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres. C'était un des collaborateurs de Paul et un proche collaborateur aussi de l'apôtre Pierre. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on parle de lui. Donc Marc, c'était le fils d'une femme qui avait mis sa foi en Jésus et qui avait souvent l'habitude d'ouvrir grandement les portes de sa maison pour que les disciples du Seigneur puissent se réunir à Jérusalem. On voit cela dans Actes 12. Marc, Jean-Marc, était aussi le neveu de Barnabas. Barnabas qui était aussi un collaborateur de l'apôtre Paul. Pierre va même jusqu'à dire que Barnabas est son fils spirituel. On voit cela dans 1 Pierre 5, verset 13. Il appelle Marc ou encore Jean-Marc mon fils. Et certains commentateurs, plusieurs même, disent que son évangile porte la marque ou le sceau de Pierre, son père. Donc en fait, il s'est inspiré des paroles, il s'est inspiré des prédications, il s'est inspiré du récit de ce que Pierre l'apôtre, a vécu pour écrire cet évangile. La clé de son livre se trouve au début de Marc, Marc 1, verset 1. Il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Et tout au long de son évangile, tout au long de son témoignage, notre aîné Marc nous décrit ou nous révèle progressivement ce Messie en question. Le Messie Jésus. Donc, du début jusqu'à la fin, progressivement, il nous mène à comprendre, à découvrir qui est ce Messie. Il s'appuie effectivement sur le cheminement de plusieurs personnes dans l'évangile de Marc. Il s'appuie sur leur questionnement, il s'appuie sur les craintes, il s'appuie sur leur opposition, la foule, les disciples, les chefs religieux, les autorités. Donc Marc nous amène, depuis le début, progressivement à comprendre, mais qui est ce Messie? En outre, quand on lit l'évangile de Marc, on voit qu'il progresse un peu dans le ministère de Jésus. Au départ, il se focalise sur Jésus en Galilée, dans son ministère public, dans son ministère aussi privé. Et après, il part de Galilée en se focalisant toujours sur Jésus, en allant maintenant progressivement vers la Judée et vers Jérusalem, où il ira au temple, où il ira pour rencontrer les responsables juifs, et là où il sera condamné et après crucifié à la croix. Nous avons la grâce de lire cela après, plusieurs siècles après. Mais Marc et ses contemporains n'avaient pas cet évangile. Et ils ont appris progressivement à comprendre la révélation de qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aimerions nous inviter en tant que famille durant ces semaines à suivre cette trame pendant ces semaines, en nous mettant dans la peau des contemporains de Marc. Comme si on était à l'époque où Marc a écrit, en se posant les questions, en cheminant petit à petit pour comprendre qui est ce Messie, qui est ce roi, qui est ce Jésus. Pendant ce cheminement, on verra aussi en parallèle le livre d'Ésaïe. Ésaïe, du chapitre 44 jusqu'au chapitre 66. Donc on va cheminer avec Marc et avec Ésaïe. Pourquoi? On le voit aussi au début du Marc. Il dit bien, révélation de Jésus-Christ, suivant ce qui a été écrit par le prophète Ésaïe. Donc on va cheminer ensemble en suivant cette trame. On va se poser les quelques questions suivantes. Qui est Jésus? Si nous sommes invités à être des disciples qui marchons à la suite d'un maître, et ce maître en question, c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Est-ce Jesús Navas, le joueur espagnol? C'est qui Jésus en question? S'agit-il de Bar-Jésus? De qui parle-t-on? En tout cas, mes amis de l'Espagne, mes amis hispanophones, on a beaucoup de Jésus dans nos pays. S'agit-il de ce Jésus? Ensuite, on va se poser la question de savoir, mais que signifie le Messie? Le Messie pour la foule? Que signifie le Messie pour les Juifs? Que signifie le Messie pour les autorités? Que signifie le Messie même pour les disciples de Jésus? Et que signifie le Messie pour Jésus lui-même? On va cheminer pendant ces quelques semaines en nous posant la question, que signifie le Messie? Enfin, on va essayer de répondre à la grande question de savoir que doit savoir un disciple sur Jésus pour pouvoir le suivre. C'est vraiment la grande question à laquelle nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse durant ces quelques semaines. J'aimerais vraiment nous encourager à attacher nos ceintures et à cheminer ensemble au travers du témoignage de notre aîné Marc pour découvrir qui est véritablement Jésus. Pour ce faire, ce matin, je nous invite à découvrir le premier acte de notre survol. Pour cela, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Je vais commencer la lecture. Marc, chapitre 1. Nous allons lire ensemble les 13 premiers versets. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus revint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Tu es mon fils, bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Que la parole du Seigneur soit bénie ce matin. Nous allons ensemble commencer le premier acte de notre survol. J'espère que cela vous a mis l'eau à la bouche et encouragé à aller lire le livre des actes pour découvrir qui est ce Messie. Que devons-nous savoir en tant que disciples pour pouvoir suivre notre maître? La première chose qu'on voit dans ce texte qui est frappante, c'est que Marc commence en nous parlant clairement de la chose la plus importante dans son évangile, du but, de la cible, je veux dire le point clé, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est le but, c'est le point le plus important. C'est là où il veut nous conduire dans son témoignage. Et il commence clairement en annonçant les couleurs. C'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Et il ouvre une petite parenthèse, que je dirais même une grande parenthèse, en nous parlant des prérequis pour pouvoir avoir la révélation complète de ce Messie. Il nous parle du précurseur, il nous parle de ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe, il nous parle de la personne de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. On le voit dans les 8 premiers versets. En lisant cela, il y a quelques points qui sont importants à retenir concernant Jean-Baptiste dans les 8 premiers versets. La première chose, c'est que Marc met en avant la prophétie, je veux dire, qui avait été faite par Ésaïe. On voit ça, Ésaïe 40, à partir du verset 3, où Marc reprend les paroles prophétiques qu'Ésaïe a annoncées au peuple, en promettant que Dieu enverrait le libérateur, le serviteur fidèle qui viendrait pour restaurer le royaume d'Israël. Et commence par cela. La deuxième chose qui est frappante dans le texte, c'est que c'est le lieu ou le terrain de mission de Jean-Baptiste. Le texte nous dit qu'il était dans le désert. Il prêchait dans le désert. Son ministère, il exerçait dans le désert, dans un lieu désertique. Et c'est fort de voir que le texte dit que les gens quittaient de la Judée, de Jérusalem, et venaient dans le désert pour écouter la voix du Seigneur et pour se faire baptiser. Les gens quittaient de la Judée, de Jérusalem, pour aller où? Vers le désert. C'est frappant parce que Jérusalem, pour les Juifs à l'époque, était, je veux dire, le lieu où il y avait le temple. C'était le lieu où il fallait adorer le Seigneur. C'était le lieu où il y avait le temple et on venait pour adorer le Seigneur. C'est là où les gens venaient lorsqu'il y avait des grandes fêtes, parce qu'il y avait le temple là-bas. Mais dans le texte, les gens partent de Jérusalem. Ils partent de la Judée pour venir rencontrer, écouter la voix du Seigneur dans le désert. C'était déjà une image qui annonçait ce que le Seigneur allait faire par la suite. Jean le Baptiste, dans son ministère exercé au désert, ramenait des personnes. Non, le Saint-Esprit touchait des personnes qui partaient de Juda, qui partaient de la Judée, qui partaient de Jérusalem pour venir au désert, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix du Seigneur. Quelle image forte! Quelle image forte! Je ne veux pas revenir avec ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Je veux rester dans l'évangile de Marc. Parce qu'il a dit à la femme samaritaine, ce n'est même pas à Jérusalem, ce n'est plus là-bas où vous allez adorer le Seigneur. En continuant le texte, on se rend compte que le message, si on peut résumer le message de Jean-Baptiste, il y a d'autres évangiles qui nous donnent plus d'éléments par rapport à ça, mais ici, on voit que c'était un message où il disait clairement aux personnes qu'il fallait se repentir, qu'il fallait changer de vie, qu'il fallait se repentir de leur manière de vivre. Il annonçait clairement cela afin que ces personnes-là puissent obtenir le pardon de leurs péchés. C'était un message de repentance, de pardon des péchés, en vue de recevoir le pardon que Dieu donne. Jean le Baptiste annonçait clairement aux personnes qui venaient à lui que votre vie ne plaît pas au Seigneur, que votre vie n'honore pas le Seigneur, que vous vivez dans le péché. Il faut vous repentir. Il faut changer votre manière de vivre. Il faut changer votre manière de parler. Il faut changer votre manière de penser. Et revenez au Seigneur qui est prêt à vous pardonner. La dernière chose qui nous frappe concernant Jean-Baptiste, c'est l'humilité et la simplicité de son ministère. Mais une humilité, une simplicité qui n'exclut pas un ministère puissant. Jean-Baptiste, le texte nous dit, voilà, qu'il vivait dans le désert, son menu, il mangeait du miel et des sauterelles. Voilà. Voilà, Michel est là, voilà. Nos amis français, s'ils prenaient la carte du menu de Jean-Baptiste, ils n'allaient pas être très enchantés. Le miel avec des sauterelles. Peut-être, s'il y avait des frères asiatiques ce matin, ils allaient peut-être se retrouver, parce que chez nous en Asie, on mange facilement des insectes. Nous sommes habitués à ça en Asie. Mais nos amis de l'Occident, nos amis, nos frères même de l'Afrique, on aurait eu du mal à aller rendre visite à Jean-Baptiste. Mais le texte met en avant la simplicité de sa vie. On parle même de sa tenue vestimentaire. Il est habillé d'un manteau de poil de chameau. Il avait une ceinture, voilà, une ceinture de cuir autour des reins, habillé simplement. J'ai envie de dire, une personne qui n'attire même pas les regards. Une personne n'a même pas... Est-ce qu'on peut même lui accorder du crédit à cause de cette tenue vestimentaire? la simplicité, l'humilité, je veux dire, de Jean le Baptiste. Et même dans son message, il dit clairement qu'il n'est pas le Messie. Lui, il baptise simplement d'eau. Mais il arrive quelqu'un de plus grand qui baptisera du Saint-Esprit. La simplicité, l'humilité de Jean-Baptiste dans son rôle de témoin qui oriente vers le Messie qui arrivera. Et en lisant ces paroles, je me suis posé la question de savoir, mais quel type de témoin sommes-nous? Je ne suis pas en train de dire que nous tous, on doit devenir comme Jean-Baptiste, s'habiller, je veux dire, voilà, ne pas prendre soin de cette tenue vestimentaire, s'habiller bizarrement, voilà. Ça aussi, ça peut être une autre chose qui attire les regards sur nous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un évangile, je veux dire, de pauvreté. Non, ce n'est pas ça. Mais une chose qui est forte dans le témoignage que Marc rend à Jean-Baptiste, c'est l'humilité, la simplicité, l'effacement pour que les yeux soient fixés sur le Messie qui viendra pour sauver, pour nous baptiser du Saint-Esprit. Je vais revenir là-dessus. Dans notre contexte aujourd'hui, on a l'impression que le témoin, il est plus puissant même que celui à qui il est, celui à qui ou pour qui il est censé rendre témoignage. Nous sommes plus royalistes que le roi lui-même. Nous sommes plus royaux que le roi lui-même. Les chansons, il est mieux habillé que le roi lui-même. À tel point qu'on se demande, mais c'est qui le roi? C'est les chansons ou c'est le roi? Le ministère de Jean-Baptiste ne reposait pas sur ses propres forces, sur ses propres capacités, sur sa gloire personnelle, non. Mais sur la puissance du Saint-Esprit qui conduisait les personnes à se tourner vers le Seigneur. Il annonçait clairement le message de repentance et plusieurs venaient. Le texte dit même que tous ceux de Jérusalem venaient à lui pour se faire baptiser. Que le Seigneur nous aide à être des témoins simples, humbles, qui orientent vers Jésus, qui orientent vers le Christ, qui orientent vers lui. Je vais terminer avec ça. Une autre chose, une autre parenthèse. Je sais nous sommes nombreux ici, on est beaucoup influencés par ça. Je vais le dire, je ne l'ai pas dit au premier culte. Parfois, aujourd'hui, on a l'impression que notre apparence physique ou toute la logistique qu'on met autour est plus importante que Jésus même lui, que Jésus qui est le Messie. Et on passe à côté. C'est lui qui doit être vu. C'est lui qui doit être honoré. C'est lui qui est le Messie. On doit apprendre à s'effacer. Jean-Baptiste, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp ou Facebook, je ne sais pas. Il ne faisait pas beaucoup. Il était dans le désert. Il n'avait pas besoin des apparats. Mais le Seigneur qui voit les cœurs, il a arrosé le ministère de son serviteur. Il a préparé le chemin du Seigneur. Sommes-nous des serviteurs ou nous sommes des rois qui prenons la place du vrai roi? Est-ce que nous sommes des témoins comme Jean-Baptiste qui apprennent à s'effacer pour encourager les personnes à se tourner vers le Messie, vers Jésus? Je termine avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'à cause de ça, il faut maintenant s'habiller en poil de chameau. Non, ce n'est pas mon point. Habillons-nous bien, propre, présentable, pour la gloire de Dieu. Je termine. Le deuxième point. En plus de cela, on voit clairement, à partir du verset 9, le baptême de Jésus. Je vais lire à partir du verset 9. Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » En lisant ces versets, je me suis posé quelques questions. Pourquoi Marc, en commençant son évangile, nous rapporte ce récit du baptême de Jésus? Quel lien Marc fait-il entre le début de son évangile, le livre d'Ésaïe qu'il cite, et le baptême de Jésus? On a vu précédemment que le message que Jean-Baptiste annonçait, c'était un message de repentance. Ceux qui avaient des péchés, ils venaient pour se faire baptiser. Mais pourquoi Jésus va-t-il se faire baptiser? Pourquoi Jésus est-il concerné par le baptême de Jean, qui était un baptême de repentance, qui était une invitation aux pécheurs, qui était une invitation aux gens de mauvaise vie? Pourquoi Jésus devait-il se faire baptiser? On sait tous que Jésus est sans péché. Avait-il péché en cachette? Peut-être il a caché ça aux hommes, mais pas à Dieu. Pourquoi Jésus va-t-il se faire baptiser alors qu'il est sans péché? Il n'a jamais péché. Pourquoi? Trois choses importantes qu'on peut noter à partir de ce texte, et je vais terminer. Tout comme on l'a vu avec les habitants de Judée et de Jérusalem qui allaient vers Jean-Baptiste, on voit Jésus qui accepte de s'humilier en quittant la Galilée pour venir au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Dans d'autres évangiles, on dit même que Jean-Baptiste s'est opposé. Il a dit non, je ne peux pas accepter que je te baptise. C'est moi qui ai besoin de ton baptême. Mais Marc ne parle pas de ça. Donc on va rester fidèle à ce que Marc dit. On voit l'humilité aussi de Jésus, qui accepte de s'humilier, qui accepte de s'abaisser. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Jésus accepte, au travers du baptême, de s'identifier au pécheur. Il était sans péché, mais il accepte de s'identifier. Il accepte de s'humilier en venant vers Jean-Baptiste. Il accepte encore de s'humilier en s'identifiant au pécheur. Le baptême de Jésus est un symbole du fait qu'il va prendre, qu'il va porter les péchés de tous ceux de Jérusalem, de tous ceux de la Judée, de tous ceux de la Palestine, de toute l'humanité. C'est un symbole que Jésus accepte de prendre sur lui les péchés de toute l'humanité. En acceptant de passer par les eaux du baptême, il s'identifie au pécheur. C'est un élément de base indispensable à comprendre au sujet de la révélation de ce Messie, de ce Fils de Dieu pour Marc. Jésus, en acceptant de passer par les eaux du baptême, en acceptant de passer par le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance en vue du pardon du péché, lui qui n'avait pas de péché, Jésus accepte de s'humilier en s'identifiant au pécheur. C'est une manière de montrer clairement qu'il accepte de prendre sur lui les péchés de tous les hommes, de toute l'humanité. Et une dernière chose qu'on voit dans ce texte, c'est une expression forte de la Trinité. Dieu le Père parle des cieux, Dieu le Fils sort de l'eau, et Dieu le Saint-Esprit vient sous la forme d'une colombe. Une expression forte de la Trinité, une expression forte de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais j'aimerais terminer en revenant sur les mots que le Père adresse à l'endroit du Fils. Il dit, tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Pourquoi précisément ces paroles? Quel lien entre ces paroles de Jésus et le baptême? Pourquoi c'est là où le Père dit que tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie? Tu as toute mon affection. Quel lien entre cela? Est-ce que Jésus n'était pas Fils de Dieu depuis toute éternité et pour toute éternité? Si, il était. Mais quel lien entre ces paroles et le baptême de Jésus? Et c'est le deuxième élément indispensable à comprendre de la révélation du Christ pour Marc. C'est que par ces mots, en fait, Dieu le Père dit à Dieu le Fils, je suis content de toi parce que tu as accepté de t'humilier en venant sur la terre, en t'identifiant aux hommes. Tu as accepté la mission d'aller sur la terre, mourir pour les péchés de l'humanité et ressusciter. Dieu le Père est content. Il dit, tu fais toute ma joie parce que le cœur de Dieu bat pour le salut, pour le rachat de toutes ces personnes qui sont perdues dans le péché. Et Dieu le Fils a accepté de venir pour cela. Alors le cœur de Dieu le Père est comblé parce que Dieu le Fils a accepté de venir sur la terre, a accepté de s'identifier pécheur, a accepté de prendre sur lui nos péchés pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Alors Dieu le Père dit, bien joué mon fils, tu fais ma joie, tu combles mon cœur parce que tu contribues au salut de toute cette humanité. Dieu le Père est comblé de joie à cause de l'obéissance de Dieu le Fils qui vient pour nous sauver. C'est le sens du baptême de Jésus qui accepte de s'identifier aux pécheurs, qui accepte sa mission pour nous. Ce texte fait écho à ce qui est dit dans Philippiens 2, où on parle de Jésus qui a accepté de s'humilier. Paul dit, il était l'égal de Dieu. Il est Dieu, mais il a accepté de s'humilier en devenant un homme, un simple homme. Il s'est encore humilié en acceptant de prendre sur lui nos péchés, en acceptant d'aller jusqu'à la croix, mourir pour nous. Il a accepté d'aller jusque là-bas. Et Dieu le Père, son cœur est comblé à cause de cela. À cause du salut que Jésus va apporter. À cause du salut que le Messie va apporter par sa mort et par sa résurrection. Oui, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que nous voulons célébrer en partageant la Sainte Cène. Nous voulons nous rappeler de cela, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, qu'il a poussé à nous visiter au travers de son Fils Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, qui exprime son règne, non pas en nous écrasant, mais en mourant. Tout comme le baptême de Jean, qui précède ou annonce le baptême du Saint-Esprit que Jésus apportera, la réception du salut en Christ nécessite au préalable une prise de conscience de notre état de pécheur par rapport à Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous invite, tout comme Jean-Baptiste a clairement annoncé à ses contemporains, le baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Ce matin, le Seigneur nous invite à nous détourner de nos péchés et à mettre notre foi en Jésus, qui est le Messie dont parle Marc, qui est le Messie qui est venu pour nous sauver, qui est le Messie qui allait jusqu'à la croix pour nous sauver, qui allait jusqu'à la croix pour prendre nos péchés, qui est mort et qui est ressuscité. C'est l'invitation que Dieu nous lance ce matin. C'est l'invitation que Dieu nous lance en ces débuts d'année. C'est l'invitation que notre aîné Marc nous lance au travers de son témoignage. Quelle réponse tu donnes à cela? Prenons un temps dans la prière avant de passer à la Sainte Cène. Prions.